Vladimir Jankélévitch à la Sorbonne, 1961-1962, les 9 premières séances du cours, la tentation. Aujourd'hui, figure de la tentation deuxième partie, le relapse et la laideur, enregistré le 5 février 1962.
Dernière, les formes de la tentation, d'après les formes d'interdiction, nous en étions arrivés à celle qui est la tentation proprement dite et dans laquelle l'interdiction est de nature morale. Non point gratuite ni arbitraire, mais éthique et mettant en jeu des valeurs. Et pour rendre plus clair l'opposition entre cette forme de tentation et la précédente, c'est-à-dire celle dans laquelle la prohibition avait un caractère arbitraire, dans laquelle la chose était défendue simplement parce qu'elle est défendue, j'avais pris deux exemples vénérables et tous les deux fort exemplaires et plus que classiques, à savoir la tentation d'Ève et d'Adam au paradis et la tentation de Jésus au désert. Et nous avions dit de la première qu'elle avait un caractère pré-moral, en quelque sorte, antérieur à la disjonction du bien et du mal, puisque l'objet de la défense était précisément d'empêcher la créature de connaître cette distinction morale, d'avoir les yeux dessillés, comme dit la Bible, tandis que l'autre, au contraire, a un caractère plus proprement éthique. Et nous avions conclu par ces mots, justement, qui sont un peu paradoxaux, qui expriment le caractère paradoxal de ces tentations, c'est que dans le premier cas, c'est celui qui est fort qui faiblit, et dans le deuxième cas, c'est l'inverse, celui qui devrait être faible et qui résiste, et qui est inébranlable. C'est qu'en effet, dans le cas précédent, c'est-à-dire la tentation immémoriale, prélapsaire, comme disent les théologiens, c'est-à-dire antérieure au péché originel, l'innocence est un état instable qui ne demande qu'à virer, qui doit virer, qui doit changer pour amorcer l'histoire et le devenir. Et la première occasion qui se présente, la première pomme qui se présente, persuade la créature de quitter son ennuyeuse félicité. Et c'est pourquoi nous disions que le serpent n'avait pas de long discours à faire. Il n'avait pas bien longtemps à plaider, n'est-ce pas, pour que la créature cède. Car il importe, pour des raisons métaphysiques, que l'histoire commence. N'est-ce pas, que le déroulement du devenir, de l'évolution, commence, et que par conséquent, le péché soit commis. Au contraire, vous remarquerez, par opposition, dans la mesure où il est permis de rapprocher des choses qui ne sont comparables que pour un monsieur qui étudie la tentation, pour un professeur qui a choisi comme sujet la tentation, c'est le seul point commun, n'est-ce pas ? Enfin, c'est quand même important de confronter ces deux genres de relations. Vous remarquerez au contraire que dans l'Évangile, il faut trois assauts successifs à Satan, trois assauts pour ne pas obtenir le consentement de Jésus, d'ailleurs. Trois assauts, donc, impuissants, trois assauts inefficaces. Donc, non seulement il y a trois tentatives et non pas une seule, et deuxièmement, et d'autre part, ces trois tentatives s'avèrent toutes les deux inefficaces. Il s'agit en effet d'autre chose, non plus d'amorcer l'histoire, comme dans le premier cas, de déclencher le processus du devenir de l'évolution, mais il s'agit de vérifier l'acier. L'acier de la volonté du Fils de Dieu, n'est-ce pas ? Il s'agit d'éprouver la trempe de sa volonté, en quelque sorte. Et donc, ce n'est plus une innocence, une indifférenciation originelle qu'il faut faire virer et qui prélude au tumulte du devenir. Tout indique qu'avec cette deuxième tentation, porte le numéro 4 dans celle que nous énumérons, n'est-ce pas ? Nous sommes contemporains du monde des valeurs, du monde moral. Jésus représente donc un foyer de pureté inaltérable dans un monde déjà historique, dans un monde déjà impur et dans un monde déchu. Par conséquent, il est contemporain de la distinction du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et en général des valeurs. Et d'ailleurs, il n'est que de lire ses réponses dans les évangiles, notamment chez saint Matthieu, par exemple, qui les développe, saint Luc est présent dans un autre ordre, pour voir que, d'ailleurs, ses réponses ressemblent un peu aux réponses de l'innocente devant les docteurs, et il nous confirme dans l'idée que Jésus est contemporain déjà du monde des valeurs, avec ses rémunérations, avec ses cas de conscience, et même on pourrait, si on voulait, si c'était l'objet de ce cours, mais je ne me attarderai pas dans un domaine qui n'est évidemment pas le mien, dans lequel je serais incompétent. On pourrait montrer, en suivant ses réponses, quelles sont ses valeurs qui sont préférées à d'autres, dans un monde où des valeurs existent déjà. Par exemple, la préférabilité des nourritures célestes par rapport aux nourritures terrestres, n'est-ce pas ? La préférabilité du pain, du, du pain de l'esprit par opposition au pain du corps, des viandes spirituelles par opposition aux viandes tout court, n'est-ce pas, à la nourriture du corps. Et en vertu de cette promotion allégorique, pneumatique, métaphorique, immatérielle, qui affecte si souvent dans l'Évangile les concepts de l'ancienne loi, et qui font donc la prééminence de l'esprit est affirmée sur la lettre. Et donc la préférabilité de l'esprit sur la lettre, de la nourriture de l'esprit sur la nourriture du corps. Et de la même manière, la préférabilité en réponse à la troisième tentation, celle qui porte le numéro 3, tout au moins chez Saint Luc, la préférabilité du service de Dieu aux royautés et aux hégémonies terrestres, par conséquent à l'impérialisme politique, par exemple, à la domination des royaumes. Voilà donc, si vous voulez, de genre d'échelle de valeur, n'est-ce pas, de comparaison entre des valeurs qui appliquent bien clairement que la tentation, elle, éprouve l'attachement de Jésus à un certain idéal, n'est-ce pas, et qui est défendu contre les entraînements de la chair. Voilà donc la tentation proprement dite, qui est, et dont on peut bien dire qu'elle est éthique par opposition à celle qu'on pourrait appeler dans le même langage, dans un langage semblable, mais pour mieux faire comprendre, la tentation métaphysique, anéthique, pré-éthique, qui est celle d'Adam et d'Ève. Celle-ci est donc une tentation proprement éthique et morale. C'est donc la tentation tout court, celle que l'on a en vue quand on parle de la tentation, au lieu que dans un prochain chapitre, quand nous commencerons à étudier la tentation active, celle qui n'est point la tentation de l'homme tenté, mais l'homme qui se tente lui-même pour aller au-devant des choses, c'est plutôt une tentation métaphysique que nous étudierons dans ce sens. Et enfin, s'il fallait que je sois complet, mais je ne désire pas l'être, et c'est simplement pour qu'il ne manque pas une fenêtre à notre édifice, que s'il fallait refaire ce tableau complet, je devrais ajouter encore une cinquième tentation qui correspond, pour correspondre à celle que nous avions étudiée en premier lieu, quand nous les avions classées par selon l'envie ou le désir, c'est celle dans laquelle la désirabilité, ou c'était peut-être pas le premier lieu, mais enfin, je ne me rappelle plus où je l'avais placé, c'est celle dans laquelle la désirabilité tient elle-même au veto, c'est-à-dire les interdictions artificielles que l'homme se fabrique à lui-même pour rien, non point une interdiction factice et arbitraire, mais qui serait imposée à l'homme du dehors, par exemple celle de Dieu, qui, sans qu'on sache pourquoi, interdit à la créature de manger un certain fruit, mais une interdiction que l'homme se fabrique à lui-même, par goût de l'austérité, par goût de l'inconfort, par un masochisme inavouable, en se tentant lui-même, et en faisant donc de cette chose défendue sa délectation elle-même. Vous voyez que c'est un cas qui ressemble un petit peu au quatrième, mais qui en diffère du tout au tout, parce que c'est l'homme qui fabrique cette tentation, et non pas Dieu qui la lui impose. Pour continuer cette étude, analyse, et aussi un peu description de cette tentation de l'homme tenté au passif, de l'homme patient, de l'homme tenté par le plaisir, il me faut étudier maintenant certains aspects, des aspects qui sont des corollaires de l'ambivalence passionnelle par laquelle nous avons défini la tentation, et défini de telle manière qu'il nous a semblé que la tentation est même le type de l'état ambivalent. Disions-nous, un complexe instable d'horreur et d'envie. D'ailleurs, peut-être suffirait-il de dire que c'est une horreur, puisque l'horreur, déjà, comme le mot l'indique un peu, est déjà ambivalente en elle-même, puisque c'est aussi un mot religieux, n'est-ce pas, qui implique le respect, une secrète attirance. Enfin, peu importe. Horreur et envie, en prenant le mot horreur dans le sens courant, et donc une tension dramatique dans laquelle deux forces contradictoires tirent chacune de leur côté, et dans laquelle l'homme est tantôt écartelé, tantôt, plus souvent encore, immobilisé, au point mort, lorsque les deux forces sont égales, et qui chacune tire dans son sens. Et qui, par conséquent, comme le vertige lui-même, suppose une oscillation vibratoire. En apparence, il ne se passe rien, n'est-ce pas? Quand un homme est tenté, et devant un objet tentant, et qui ne bouge pas, eh bien, pour celui qui le photographie, qui le regarde, ou même qui le filme, il se passe rien, il ne bouge pas, n'est-ce pas ? Et donc il y a une tension intérieure, mais pour celui qui lit à l'intérieur, et probablement qui veut saisir les moindres tressaillements dans les muscles du visage, il se passe beaucoup de choses, car il n'est pire haut que l'eau qui dort, et tout ce qui est immobile, disait Aristote, n'est point en repos, ou panto akineton et remei. C'est le cas de le dire pour l'homme tenté, tout ce qui est immobile n'est pas en repos. Il y a donc un état de tension, d'oscillation, oscillation vibratoire, ou comme aime à dire Jean Val, quand il parle de problèmes métaphysiques, un état de tension d'ailleurs, une tension, et qui n'est pas, disions-nous, une simple fluctuation, une oscillation flottante, comme l'hésitation dont parle Spinoza, quand il parle de la fluctuation, mais qui est un débat, et j'allais dire, en exagérant un peu, une agonie, mais en prenant le mot agonie dans son sens grec, n'est-ce pas, agonia, un combat, ou plutôt un débat. Le débat de l'homme tenté, tendu, à la fois tendu et tenté, et un débat, ma foi, fort discuté. Eh bien, voilà le point, voici le point auquel nous voulions en venir, et qui est j'appelais le corollaire de cette tension, cette oscillation vibratoire, qui est un aspect de cette vibration intérieure, ces fortunes diverses, ces fortunes changeantes de la tentation, qui font que dans cet état immobile, il y a immensément de choses à décrire, et qui sont même très pathétiques, s'expriment matériellement dans le polymorphisme de la tentation. Dans son caractère polymorphe. Et le polymorphisme est lié à la tentation d'une manière si étroite que la conscience populaire, vous le savez bien, s'est toujours représenté le diable, dans la mesure où le diable est le tentateur, c'est un de ses métiers, n'est-ce pas, c'est sa spécialité professionnelle, c'est surtout à ça qu'il est occupé, quand on demande qu'est-ce que fait le diable, et matériellement, à quoi s'occupe-t-il, puisque il est lui-même le mal. Eh bien, il s'occupe de tenter les hommes, de les persuader, de se ranger dans le camp du mal dont il est l'empereur, n'est-ce pas, il s'agit donc de les rallier à sa cause. Voilà à quoi il s'occupe. Eh bien, ce n'est pas une vaine rencontre si ce génie de la tentation est en même temps celui que les hommes, naïvement, considèrent comme responsable de leur tentation, en mettant sur le dos du diable ce qui leur revient probablement à eux, si nous le représentons aussi comme le génie du travesti, n'est-ce pas ? Méphistophélès est aussi l'homme qui se déguise. Il y a en lui à la fois le principe tentateur et en même temps le principe du déguisement et de la métamorphose. Le génie des métamorphoses. Mais des métamorphoses perfides, non pas des métamorphoses créatrices, n'est-ce pas, comme celle de la vie, de l'être qui prend différentes formes, qui devient papillon, chrysalide papillon, mais la métamorphose trompeuse, destinée à guicher l'homme et à le pervertir par cette tromperie. Et remarquez d'ailleurs que dans ces métamorphoses, la conscience populaire nous indique les moyens de toujours le reconnaître. C'est un homme qui se travestit, c'est un ange qui se travestit, mais malgré tout, on le reconnaît. On le reconnaît à son odeur, à ses pieds, à ce qu'il a des cornes, aux pieds de bouc, il sent le soufre. Comme la femme sorcière, quand il s'assoit dans un fauteuil, le fauteuil se met à brûler. On peut reconnaître, derrière les déguisements, on peut reconnaître malgré tout l'unité. Mais enfin, ce qui domine, c'est la métamorphose. Et la métamorphose, elle est déjà un peu évoquée, même par l'idée du serpent, par l'affluence, par la perfidie serpentine, qui suggère à l'esprit immédiatement l'idée de l'affluence, de l'insinuation. Fluente, protéenne en quelque sorte et toujours changeante, qui est en somme le changement de la promesse, de la trompeuse promesse. Il y a donc à la fois le polymorphisme de la métamorphose dans le tentateur et d'autre part, malgré tout, le substantialisme. Le substantialisme incarné par le diable lui-même, et de telle manière que, de manière paradoxale d'ailleurs, c'est la substance elle-même qui est le mal, n'est-ce pas ? C'est la substance qui est le mal, dans un substantialisme inverti, interverti, un substantialisme à l'envers, n'est-ce pas, où ce serait la substance elle-même qui serait mauvaise. La substance est donc elle-même le mal, et quant aux déguisements, aux apparences, eh bien eux, ce sont les manières d'être d'emprunt, les apparences changeantes, qui elles sont destinées à nous aguicher, qui servent d'appât. Ce sont, comme dit par exemple saint François de Sales, qui s'est beaucoup occupé dans ses lettres de direction, dans le traité de l'amour de Dieu, de la tentation, ce sont les amorces, les appâts du mal, car cette substance a besoin quand même d'amorcer l'homme. Et ce sont les propositions qui frappent à la porte de notre cœur et pour demander la permission d'entrer. Eh bien, cette diversité qui cache la substantialité du mal, cette diversité pour la conscience populaire, c'est en somme la malice même du malingénie. C'est en quoi le malin génie est malin, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que ce génie est un génie malin. C'est cela qui explique que la tentation procède par assaut répété, n'est-ce pas? D'une part, nous étudierons ces deux cas à part, ces deux caractéristiques à part, dans l'ordre inverse de celui d'ailleurs où je les expose maintenant. D'une part, la tentation procède par assaut réitéré, et d'autre part, elle procède sous des formes variées, n'est-ce pas? Sous des formes variées, en s'adressant successivement à tous nos sens. Et elle procède par assaut répété, comme le suggère même l'idée de l'épreuve, qui est toujours au pluriel, l'idée des épreuves, comme quelqu'un qui est mis à la torture, qui est mis à la question, et où le tortionnaire diversifie les tortures pour arracher l'aveu, n'est-ce pas? Pour obtenir l'aveu, eh bien, on diversifie la torture dans l'espoir que le tel supplice obtiendra ce que le précédent n'a pas obtenu, qu'on arrachera ce que la précédente torture n'a pas obtenu. Ce sont donc des épreuves successives et comme des tentatives que le diable multiplie, mais qui ont ce caractère, eux, de ne pas faire mal. Ce ne sont pas des tortures en ce sens, mais ce sont peut-être des tortures plus grandes encore, en un sens, dirait un théologien, puisque c'est le supplice de l'esprit. Tout à l'heure, nous en reparlerons. Nous reparlerons de cette torture dans le plaisir, dans l'attrait de la volupté. Eh bien, c'est cela, la multiplicité des tentatives où l'une a échoué, l'autre peut réussir, c'est-à-dire qui sont des essais réitérés, comme les bancs d'essais, les essais successifs auxquels on soumet un prototype, un moteur d'avion, paraît-il, en le soumettant, je ne sais pas au courant de la question, mais on le soumet à une série d'épreuves, n'est-ce pas, en plein vol, en hauteur, en vitesse, et ainsi de suite, à l'épreuve des températures. De la même manière, et pour éprouver l'acier de la volonté, eh bien, la tentation diabolique, le diable, lui, soumet également cette volonté à des épreuves diversifiées et réitérées l'une après l'autre. Et si bien qu'on pourrait dire que la tactique du démon est celle du harcèlement. C'est ça qu'il a choisi pour nous. Non point l'attaque frontale, ni la grande offensive, mais le harcèlement. Il nous harcèle. Il s'agit donc, en somme, de trouver pour lui le point faible, en tâtant les défenses de l'homme, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il trouve le point faible. Et ceci est permis par le fait que l'homme de désir, la créature qu'est l'homme concupiscent dont nous parlions il y a une quinzaine de jours, l'homme de désir est un être complexe, qui a des idiosyncrasies, qui a des goûts propres, un caractère dont les composantes sont différemment dosées, dont la dominante n'est pas la même, selon les individus, selon les goûts de chacun, et la dominante varie avec le tempérament des humeurs, et lui-même est changeant. Donc les hommes diffèrent l'un de l'autre par leur goût, et l'homme lui-même a différents appareils sensibles, et parmi lesquels c'est tantôt l'un qui parle le plus haut, tantôt l'autre. Il s'agit donc, pour le tentateur, de trouver l'interstice par lequel il s'insinuera dans les défenses de la créature. Et c'est pour cela qu'il change de déguisement, que le diable se fait tour à tour honorable gentleman, et petite souris, feu follet, serpent, hibou, chat-huant, crapaud, lézard, n'est-ce pas? Ce sont les métamorphoses du diable, les essais qu'il fait. Si le chat-huant ne m'a pas convaincu, peut-être le lézard, peut-être la femme, surtout, n'est-ce pas, et qui en cela est diabolique. Voilà donc le polymorphisme expliqué, n'est-ce pas, justifié, et en même temps rapproché, justifié par l'ambivalence naturelle, le caractère oscillatoire, vibratoire de l'état de l'homme tenté, et dans lequel l'histoire même de la tentation raconte ses fluctuations et ses vicissitudes de l'homme aux prises avec une série d'attaques de ce genre, de petites attaques. Et bien sûr, tout cela est rendu possible par le fait que, enfin, si on admet, surtout avec les théologiens misanthropes, et tous les théologiens sont un peu misanthropes en ce sens, ou pessimistes, que l'homme est une créature de concupiscence, dans laquelle la concupiscence, c'est-à-dire, l'instinct, forme la continuité instinctive, la base fondamentale, je crois avoir dit, ou bien je confonds avec un autre cours, la base fondamentale dans la vie de l'homme, et qui veille à tout moment. si bien que l'homme de désir, soit qu'il veille, soit qu'il sommeille, est toujours un être de concupiscence, et à tout moment. Mais même quand la concupiscence sommeille, nous savons bien qu'elle ne dort que d'un œil, n'est-ce pas ? Elle ne dort que d'un œil, et elle est toujours prête à se réveiller. Et donc, d'une part, il y a ce fond, cette base fondamentale, qui est la continuité, et d'autre part, les élans de la chair, n'est-ce pas ? Les élans de la chair brochent, font saillie sur une continuité fondamentale. Que l'homme soit perpétuellement, en tout temps, soit éveillé, soit vigilant, soit endormi, un être de concupiscence, n'empêche pas que les élans de la chair soient, eux, discontinus et intermittents. Donc, l'instinct est perpétuel, l'instinct est continu, mais les impulsions et les élans, eux, sont essentiellement discontinus, sont intermittents. Et ils sont exaspérés par les provocations, ils se réveillent lorsque l'occasion se présente, et l'homme qui a complètement oublié ses sens, qui croit n'en plus avoir, qui croit être un être sans instinct, brusquement se retrouve un être d'instinct le jour où un appel habile, adroit, est fait à ses appétits, à cette concupiscence. Donc, voilà les deux choses à lier ensemble. D'une part, la continuité instinctive, et d'autre part, la discontinuité des provocations qui tirent l'instinct de son léger sommeil, de sa légère somnolence, qui la ressuscite périodiquement. Il s'ensuit que les moralistes sont amenés à penser que les victoires de la raison sur la pétition sont toujours, pour cette raison, des victoires provisoires, précaires, fragiles, et que cette victoire doit être perpétuellement remise en question. Là-dessus, je crois que la morale courante et la pédagogie courante sont d'accord avec les précautions que prennent les directeurs et les théologiens avec leurs fidèles, à savoir qu'une victoire sur une grande tentation ne préjuge pas de la journée de demain, et qu'il arrive souvent, et en cela encore, Saint François de Sales est d'accord avec les pédagogues de la pédagogie la plus courante, il arrive couramment qu'un homme qui a résisté à une tentation très violente, mais pas très, très, très tentante, succombe en un tour de main, le lendemain, à une toute petite tentation minuscule, à rien du tout, à une adroite passade, n'est-ce pas ? Ça peut arriver. Eh bien, ça n'arriverait pas si l'homme, en raison même de cette profondeur inépuisable de l'instinct, n'avait pas une nature constitutionnellement relapse. L'homme est toujours relapse, incorrigible, impénitent. L'instinct, à tout moment, ressuscite de ses cendres, et la victoire qu'on peut obtenir sur lui est toujours une victoire de l'instant, de même que l'impulsion de la chair est une impulsion de l'instant, et qui donc exige toujours cette vigilance. Mais n'anticipons pas sur ce qui sera mon troisième chapitre, et qui est la lutte, si tant est qu'il faille lutter contre elle, la lutte contre les tentations et la façon dont procéder avec elle. Tout ce qu'il y a de certain, pour l'instant, c'est que cette continuité de l'instinct, avec la discontinuité des élans de la chair et la précarité des victoires que l'on remporte sur eux, est pour nous une leçon perpétuelle d'humilité, et en même temps qu'une invitation à la vigilance. En effet, pour que l'homme reste coextensif à la continuité de l'instinct, qui lui n'est jamais endormi, il faut qu'il soit vigilant, il faut qu'il ne dorme pas lui-même, il faut donc un état un peu insomniaque, que recommande l'Évangile lorsqu'il parle cette fois non pas des tentations, mais de la mort. C'est pas veillez, veillez, vous ne savez pas quand elle viendra, ne dormez que d'un œil, comme les sentinelles, il y a un grand danger, n'est-ce pas ? Celles qui veillent aux frontières, ne faites attention, ne dormez pas. Il y a donc un principe de surveillance et qui est recommandé. Parce que aucune thérapeutique ne guérit radicalement cet instinct, si tant est que cet instinct soit le mal, ni n'en extirpe la possibilité. Eh bien, pour revenir du problème thérapeutique, qui n'est pas notre problème encore aujourd'hui, au problème du polymorphisme, montrons brièvement comment il y a en nous un polymorphisme d'attention qui est, nous renvoie l'image du pluriel de la vie sensible. Il est accordé, en somme, ce polymorphisme est accordé au pluriel naturel, au pluralisme naturel de la vie des sens, de la vie sensible, qui comporte cinq sens. La raison est toute seule, la raison est au singulier. L'homme n'a pas de cinq raisons, ni même deux, n'est-ce pas ? C'est même contraire à la nature de la raison d'en avoir plus d'une. Au contraire, il n'est pas contraire à la réalité sensible d'être consulté par l'intermédiaire de cinq sens France, qui représentent d'ailleurs cinq registres tout à fait différents les uns des autres, ou tout à fait hétérogènes les uns aux autres. Donc cette pluralité est déjà inscrite dans l'hétérogénéité des appareils sensibles, dans la gamme des nuances innombrables dont qu'ils nous livrent, dans le clavier des qualités hétérogènes qui elles-mêmes correspondent à notre corps aux ramifications des filets nerveux, des déterminaisons nerveuses. Les physiologistes disent, enfin, il y a une loi d'un physiologiste bien connu, que les potaches étudient en leur cours, et d'après lesquelles les nerfs ont une énergie spécifique. L'énergie spécifique des nerfs confirme, en somme, l'hétérogénéité, confirme à ce point de vue, l'hétérogénéité des domaines sensibles, l'un par rapport à l'autre. Et d'autre part, et même indépendamment de cette hétérogénéité, entre ces domaines, malgré le rayonnement de la sensation, sur une certaine surface, notamment de la douleur, sur une surface, il n'en est pas moins vrai qu'il y a toujours un côté ponctuel et ponctiforme dans la sensation. Et ce caractère ponctiforme de la sensation, nonobstant l'irradiation, n'est-ce pas, ce caractère ponctiforme jamais perdu, c'est peut-être lui que transcrivent à leur manière, que transcrit à sa manière Saint François de Sales, de nouveau, quand il parle d'Épicure, de la tentation. C'est un mot bizarre dont il se sert souvent, n'est-ce pas, les piqûres du démon, les piqûres des diablotins, n'est-ce pas. Les diablotins ne font pas, disais-je, lors des attaques frontales, terribles, mais ils nous harcèlent, et plus encore, ils nous criblent de leurs fléchettes, ce sont des petites secousses, dit parfois François de Sales, des secousses et des piqûres. Eh bien, on dirait que ce langage lui-même accentue le côté pluraliste et de nouveau ponctiforme de la sensation et qui est à la base de la tentation, qui est à la base de la tentation. Il y a donc, d'autre part, et ceci également, est à retenir comme expliquant le polymorphisme naturel de la tentation, dans la vie sensible, un caractère de décousu, n'est-ce pas, capricieux, qui s'oppose à la cohérence systématique, qui est au contraire la loi de la vie intellectuelle. Un homme digne de ce nom ne doit pas se contredire, tout au moins dans la même séance, n'est-ce pas, en faisant le même discours, bien que souvent il ne s'en fait pas faute. Et car la cohérence, l'absence de contradiction, l'harmonie, l'agencement architectonique des différentes parties du discours, l'ordre que l'intelligence y introduit, sont des éléments essentiels, des pièces essentielles de l'architecture intellectuelle. Mais au contraire, un homme peut très bien avoir des goûts qui, du point de vue de l'intelligence, apparaissent comme incompatibles l'un avec l'autre, n'est-ce pas, en raison de la loi de sporadisme de la sensation. Il peut aimer des choses qui, au premier abord, apparaissent décousues. Il en a le droit, de même que un homme a le droit d'aimer à la fois César Franck et Chopin, n'est-ce pas, ou César Franck et Debussy, qui sont le contraire l'un de l'autre, par exemple, mais il n'est pas sommé de se justifier, n'est-ce pas, il est sommé de se justifier quand il se contredit, mais quand il aime deux choses tout à fait différentes, eh bien, ceux qui le somment de s'expliquer, ce sont des pédants, des cuistres, n'est-ce pas, et qui ne méritent pas qu'on leur réponde, car ils imposent à la sensibilité une loi qui ne vaut pas pour elle. Mais je m'aperçois que je bavarde en parlant de César Franck, et je reviens donc à l'idée de l'absence de contradiction, l'idée de la bigarrure, n'est-ce pas, à l'idée de la bigarrure, sans vouloir faire des calembours, n'est-ce pas, car au contraire, le jeu de mots sera ici instructif. La loi du sens, le sens qui est signification, cette fois, c'est le caractère systématique, la construction, et la solidarité et l'ordre. Et au contraire, dans la conception du monde ou de la vie. Et la loi des sens, cette fois, des sens au pluriel, c'est au contraire l'incohérence capricieuse, c'est-à-dire l'absence de loi, ce que confirme d'ailleurs, même à l'intérieur de chaque sens, non seulement d'un sens par rapport aux autres, dans leur incohérence fondamentale et dans les goûts que les hommes professent, mais encore à l'intérieur de chaque sens, dans la bigarrure des couleurs qui se définissent l'une par rapport à l'autre, comme les tonalités elles-mêmes, et qui se différencient sur la palette en se définissant l'une contre l'autre. Nous allons voir, nous verrons, nous aurons peut-être l'occasion de le redire plusieurs fois, qu'il y a une liaison entre la séduction et ce jeu des couleurs, les unes par rapport aux autres. Et je parlerai quelquefois, aujourd'hui même, pour commencer, un tout petit peu, d'Ariane et Barbe Bleue, n'est-ce pas, surtout celle de non pas celle de Bartok, mais celle de Paul Dukas, dans laquelle, parce que dans le drame de Maeterlinck, il y a derrière les portes des couleurs, des pierreries, des pierres précieuses, une polychromie, la polychromie des pierres précieuses. Ariane est tentée, elle est tentée par la curiosité, ceci c'est notre deuxième tentation, que nous étudierons par la suite, mais lorsqu'elle ouvre les portes, c'est une première tentation qui est flattée en elle, la tentation de la séduction, et notamment la tentation dans l'ouverture de ces portes, au moins des six premières, s'exprime dans le langage des chatoiements, dans le langage de la polychromie, dans le langage, dans la pluie des étincelles, des miroitements, des millions de scintillements. C'est le polymorphisme, de nouveau, de la tentation, l'éloquence sanglante des rubis, la bleueur, c'est un mot de Blanche Selva, qui traduisait le blavor catalan, la bleueur profonde des saphirs et la splendeur violette des émeraudes, la blancheur laiteuse des perles, et puis surtout les émerveillements, les éblouissements, le ruissellement des diamants, c'est pas dans l'avant-dernière porte, les étincelles d'adamantine qui tombent en cataracte de tous côtés. Voilà donc, comme vous le voyez, la multiplication de la tentation dans la séduction. D'abord dans le rapport des couleurs, et puis toujours dans une pensée de pulvérisation, d'émiettement, des flamèches, le fourmillement, le fourmillement comme dans les pierres précieuses qui étincellent. Ou encore comme dans les miroitements, puisque le miroitement, c'est l'opération par laquelle l'image est multipliée à l'infini. L'image est multipliée comme un mirage elle-même, un mirage d'illusion. Tout cela, donc, exprime de nouveau, sous différentes formes, la splendeur bariolée multicolore par l'intermédiaire de laquelle la tentation opère sur l'homme et qui est reconnaissable dans, non seulement d'ailleurs dans ce rapport des couleurs, où il est spécialement visible, mais également dans le grouillement des formes, qui anime et meuble le monde des apparences, le monde des phénomènes, et qui compose la grande fresque de la nature. Mieux encore, nous verrons également, un peu dans quelques instants, que c'est la pluralité en elle-même qui est la tentation, n'est-ce pas ? C'est l'homme est tenté par le pluriel lui-même, indépendamment même de la chose qui est au pluriel. Tout à l'heure, il est tenté, pas parce que c'est le pluriel, mais parce que ce sont les rubis, parce que ce sont les diamants, n'est-ce pas, qui le séduisent. Mais il arrive que l'homme, finalement, soit tenté par le pluriel lui-même, plus que par les diamants, indépendamment de la chose qui est au pluriel. Il y aurait d'ailleurs deux cas à distinguer, mais je ne les étudierai que brièvement parce que ceci se rapporte à un propos ultérieur, à savoir l'opposition entre la tentation et la séduction. Il faudrait distinguer le pluriel de l'homme tenté et le pluriel de l'homme séduit. Les deux choses ne sont pas tout à fait équivalentes. Il y a en effet deux formes d'épreuve à laquelle l'homme est soumis. Dans ce fourmillement lumineux lui-même, d'une part, l'épreuve des sourires, n'est-ce pas ? L'homme est tenté par le pluriel, mais c'est un pluriel dans le plaisir, le pluriel dans la caresse, si on peut dire. Et c'est ce que j'appelle plus spécialement la séduction. Il est tenté par les promesses qui scintillent, par les diamants qui brillent de leurs mille feux, comme tout à l'heure nous le disions. Il est tenté par les rubis et les saphirs qui déploient tout leur prestige. Donc il est tenté par la chose caressante. Et il est tenté par la chose caressante. Et nous comprenons mieux maintenant ce que nous avons eu l'occasion de dire il y a longtemps, en parlant non point du polymorphisme, du pluriel, mais du tentateur lui-même, on comprend mieux le geste même du charlatan. Le geste du charlatan qui propose l'objet au bateau en le faisant valoir. C'est-à-dire qu'il le propose en le montrant sous tous ses aspects, dans tous ses éclairages, en le faisant briller de ses feux, en faisant valoir, par conséquent, la polychromie et le polymorphisme. Donc, le poly de la polychromie et du polymorphisme, à savoir le pluriel, est si bien l'organe de la tentation, et parfois même la chose tentante, qu'un des procédés du bonimenteur est de faire et de rendre plus clair ce pluriel, comme un monsieur qui fait l'article et qui montre les étoffes en les faisant chatoyer. Parce que ce que je viens de dire des pierres précieuses, on pourrait le redire également des étoffes chatoyantes, des moires et des diaprures d'un tissu au reflet changeant. Il s'agit de persuader l'acheteur en montrant l'objet sous tous ses aspects indépendants. C'est donc, dans ce cas, le polymorphisme de la séduction caressante, de la séduction flatteuse, de la séduction suave et douce, et qui nous persuade par la douceur des sourires, par la qualité persuasive de la rhétorique, et de la flatterie, par les belles phrases, par les parfums, les chants mélodieux. Les sirènes sont arrangées évidemment dans cette catégorie, bien que le polymorphisme n'y soit pas très clair. Ce sont donc les paroles de miel, et également la beauté perfide. C'est probablement dans ce genre de polymorphisme, de pluriel, qu'il faudrait placer les tentations de saint Antoine, dont nous parle Gustave Flaubert. L'ermite est tenté par l'opulence, n'est-ce pas, par le prestige des formes, par le luxe des opinions, par l'exubérance tropicale, en quelque sorte, des croyances, des superstitions, auxquelles répond d'ailleurs le style de Flaubert, n'est-ce pas, avec son foisonnement luxuriant et souvent un peu fatigant de métaphores, la griserie du vocabulaire, la rhétorique et l'image même de cette séduction qui vient affoler l'habitant du désert dans sa pauvre cabane, qui n'a jamais rien vu de tel, n'est-ce pas, avec sa de pain, l'évangile devant lui et une montre sur sa table. Et voilà que devant lui se déploient tous les prestiges ligués de la rhétorique, de l'opulence, des croyances les plus extraordinaires. Voilà donc un premier cas. Et un deuxième, bien différent, que j'appelle plus particulièrement, je m'expliquerai davantage là-dessus dans une leçon ultérieure, le cas de l'homme tenté. Proprement parler, sans séduction. Tenté mais non séduit. Tenté mais non séduit, et s'il fallait, on risque de se promener d'un siècle à un autre, n'est-ce pas, et d'un art à un autre, mais enfin, peu nous importe, il s'agit de la tentation, et non pas de l'histoire. Il faudrait prendre comme exemple plutôt des tableaux qui représentent la tentation de saint Antoine, par exemple, un qui est l'un des plus beaux de tous et les plus célèbres, et qui a, sur un thème tout à fait populaire au Moyen-Âge, et qui est la tentation de saint Antoine de Hieronymus Bosch. Chez Hieronymus Bosch, le saint, comme le savent ceux qui ont vu son tableau, soit à le retable de Lisbonne, soit le tableau du Prado, le tableau d'Utrecht, enfin, il y en a plusieurs, et beaucoup de copies également, ils savent que le saint est tenté. L'ermite est tenté non point dans le foisonnement de la beauté, non point par les chants mélodieux, non point dans la douceur et dans la suavité, mais il est tenté au contraire dans la hideur repoussante, il est tenté dans la laideur. C'est la laideur qui est tentante par un paradoxe qui, vous allez le voir, est moins paradoxal que la séduction par la beauté. Il est tenté donc par la laideur repoussante, par la laideur grotesque, non point par des sirènes et par des divisions charmantes, mais par la chauve-souris immonde, par des magots grotesques, par des crapauds répugnants. Voilà la tentation de saint Antoine et les monstres que l'on peut lire sur ce tableau. Mais ce qui nous apporte pour l'instant, indépendamment de l'opposition entre le pluriel de l'homme séduit et le pluriel de l'homme tenté, l'un séduit dans la volupté, l'autre tenté au contraire dans l'horreur, ce qui nous intéresse dans notre propos actuel, c'est le polymorphisme qui est commun aux deux. On dirait que après, surtout à lire, parce qu'il faut presque lire ce tableau, tellement il y a de choses pulvérisées sur lui et dans tous les coins, et on dirait que après le monisme étouffant du Moyen-Âge, après le monisme théocratique, de l'Europe théocratique, eh bien l'homme de la Renaissance découvre avec un mélange de ravissement et d'horreur, avec un émerveillement scandalisé. Il est à la fois, en effet, émerveillé et scandalisé. Il découvre la multiplicité affolante et innombrable des êtres sensibles. C'est la découverte des êtres sensibles dans leur variété saugrenue, dans leurs formes les plus bizarres. On vérifie ici que le diable est plusieurs, le diable est légion, le diable est million, le diable s'appelle milliard, c'est monsieur milliard que le diable. La tentation de l'ermite de la Thébaïde, est donc, comme vous le voyez, un sujet privilégié pour nous, enfin, je n'ai m'arrêterai que quelques instants, puisque je suis bien incompétent également dans ce domaine. C'est vraiment le grand thème ambivalent pour l'imagination fantastique des hommes de ce temps, et dans lequel le diabolisme s'exprime clairement dans la dissémination, dans la représentation hétéroclite, et notamment dans la variété, le domaine qui se prête le plus à la variété, qui est le bestiaire, inépuisable, et le bestiaire de Hieronymus Bosch. Car la diversité apparaît surtout dans la variété infinie des formes animales. Et comme si cette variété ne suffisait pas, comme si le créateur n'avait pas été assez en verve le jour où il a créé tous les reptiles, les sauriens et les oiseaux volants dans les airs, et les poissons et ainsi de suite, le jour où il les a créés, comme si ça ne suffisait pas. L'imagination de l'homme en invente d'autres pour venir en aide au créateur. Et l'homme se charge d'enrichir les collections, n'est-ce pas, les collections dans la fourverie, dans la singerie, dans les volières de l'univers. L'imagination de l'homme en verbe, à son tour, poursuit et prolonge cette variété de la création. En augmentant le nombre de créatures qui sont dans l'Éden, qui étaient sur l'arche de Noé, elle complète l'aquarium, la basse-cour et le Volucraire. Voilà donc la raison des combinaisons tératologiques, car il n'y a pas seulement, dans cette variété tentante, il n'y a pas seulement les êtres eux-mêmes, mais il y a les combinaisons monstrueuses entre des formes d'êtres et qui n'ont rien à voir ensemble, les combinaisons tératologiques. La fantaisie hallucinatoire du peintre, ici, multiplie la diversité naturelle de ces êtres, et d'abord en créant des intermédiaires entre l'homme et la bête, des hommes zoomorphes, et des animaux anthropomorphes. Nous verrons pourquoi également, puisque c'est la tentation qui s'adresse à l'instinct de l'homme, à l'instinct animal de l'homme. C'est donc une sorte de zoologie cauchemaresque, n'est-ce pas ? La première forme que revêt donc ce polymorphisme dans l'horreur, dans la tentation de Saint-Antoine, c'est la zoologie cauchemaresque, la faune exotique qui n'est jamais à court d'invention. Ce ne sont que griffes d'oiseaux, crinières et aigrettes, et les becs des mufles de fauves, et des nageoires, et des écueils, et des écailles, et des yeux brillants qui nous regardent de toutes parts, des pelages bariolés, monstres en tout genre. Des monstres en tout genre, des crapauds bipèdes, des animaux qui sont à la fois des scorpions et des scarabées, et des écrevisses, des hommes à tête de rat ou de serpent, des oiseaux à 10 pieds, des griffons à jambes de cerf, que sais-je encore, il y a de tout. Et il y a même aussi des mélanges entre l'humanité et le règne végétal, puisqu'il y a également des hommes qui ont pour corps un tronc d'arbre, par exemple, qui se termine par des branches, et sans compter également dans cette variété, puisque j'ai parlé des animaux et des végétaux, et des mélanges entre les uns et les autres, il faudrait aussi parler de la tentation représentée par le pluriel des choses inanimées, les ustensiles de cuisine et les instruments de musique, pas avec un diable qui a une trompette à la place du nez, et tout cela et surtout, par-dessus tout, la cohue. Ce qui caractérise l'atmosphère de la tentation, l'orgie de la tentation, l'atmosphère orgiaque, presque dionysiaque de cette tentation, c'est la cohue, les contorsions, le tourbillon des diablotins, n'est-ce pas, qui en plus volent dans les airs, circulent dans les airs entre tous ces êtres. Et également, dans un coin, il y a, je n'ai jamais vu le tableau de lui-même de Lisbonne, mais les reproductions sont bien connues, dans un coin, il y a un incendie d'où jaillissent des gerbes d'étincelles. Également des étincelles, des reflets embrasés qui flambent dans la nuit. Eh bien, en laissant de côté ce tableau, qui, après tout, ne nous importe que dans la mesure où il intéresse le polymorphisme de la tentation, nous verrons, nous comprenons mieux le rôle de la tentation et censément du tentateur, puisque les hommes, décidément, en ont besoin. Le démon varie les suggestions. Il varie les suggestions jusqu'au moment de trouver le point faible. Il s'agit pour lui de trouver le point faible de ce moine inébranlable, imperturbable. Il est là, lui, à sa table, comme s'il ne se passait rien dans ce sabbat, parmi cette orgie, n'est-ce pas ? Il s'agit de découvrir le vice caché, par exemple, on ne sait pas, c'est un ermite. Mais il y a peut-être un vice qu'on ne voit pas. Essayons toujours de l'un ou de l'autre. Et en effet, cela est possible parce que l'homme se représente, le tentateur, comme quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, qui a plus d'une ficelle dans sa poche, qui a plus d'une corde à son arc, si on peut dire, ou plus d'une flèche sur son carquois, comme vous préférerez, et qui n'a jamais épuisé tous ces trucs. Tout à l'heure, nous disions qu'il s'agit de trouver le point faible, et précédemment, de trouver le défaut de la cuirasse, de trouver l'interstice dans l'armure de la volonté, de trouver le talon d'Achille, parce qu'un homme n'est qu'un homme, fut-il Achille, et il y a un point sur lequel il est vulnérable. Sans ça, ce serait un ange. Si Achille n'avait pas eu son talon, par où il pouvait mourir, Achille aurait été un ange. Donc il s'agit pour le diable de trouver ce talon, ce point faible, cette petite zone vulnérable par où les fléchettes décochées par les diablotins pourront nous atteindre. Donc de nouveau, il apparaît que les entreprises de l'entreprise de harcèlement multipliées à l'infini consistent à trouver ce vice caché. Est-ce la luxure? Est-ce la gourmandise? Est-ce la cupidité? La des sept péchés capitaux qui ont tellement obsédé les moralistes du Moyen-Âge. En effet, des pièces d'or dans un tableau de Bosch qui n'est pas du reste celui-là, des pièces d'or luisent dans l'ombre. Des pièces d'or, une femme nue sort d'un saule creux. Un moine tenant une guitare danse avec une femme. Voilà une série de tentations. Un monstre souffle du feu, femme, présente à un moine un gobelet d'une liqueur enivrante pour déclencher en lui l'ivresse. Eh bien, quelle est la corde que Satan arrivera à faire vibrer dans cette harpe aux mille cordes qu'est le cœur de l'homme, qu'est l'homme? Parmi tous ces cordes ultra sensibles, quelle est celle qu'il réussira à faire vibrer dans la concupiscence de la créature? L'une des conséquences du fait, mais que nous avons dès maintenant à retenir, qu'il s'agit d'une tentation dans la laideur repoussante, dans l'horreur, n'est-ce pas, et non point d'une tentation comme celle dont nous parlions précédemment, dans la séduction. Une des conséquences pour notre propos actuel et pour notre propos ultérieur, c'est que le combat de l'ermite est gagné d'avance, n'est-ce pas. En somme, je crois que Bosch est surtout un peintre. Mais enfin, pour nous, nous traitons ici comme un moraliste. Et du point de vue du philosophe, c'est un moraliste pour lequel l'échelle des valeurs est nettement établie, sans aucune tragédie, sans aucun chiasme, sans aucun danger de croisement, sans aucune perfidie, sans aucune imposture. Pour l'anachorète, nous le savons, ne sera pas détourné de son oraison. L'horreur de ces monstres nous en est un garant. La preuve qu'il aura le dernier mot et qu'il tiendra, c'est que ces monstres sont repoussants. Et qu'il est tenté, mais non point séduit. Il est tenté par l'enfer du vice, il est tenté par la sodomie, mais il n'est pas tenté par la belle apparence. Il n'est pas tenté par les paroles séduisante. Donc, il ne cédera pas, et en cela, il n'a pas tellement de mérite, bien entendu. Bref, dans cette conception de l'homme tenté, non séduit, le chiasme, ce que nous appelions le chiasme, et qui est un des le croisement, qui est un des caractères de la perfidie tentatrice, est presque inexistant, n'est pour ainsi dire pas représenté. Et d'ailleurs, Hieronymus Bosch ne se donne guère la peine d'embellir la diablerie, n'est-ce pas? En somme, si vous voulez, dans la cohue de ces êtres horribles, nous pouvons lire, par une lecture directe, nous pouvons lire en clair le sens diabolique de la tentation. Nous pouvons lire en clair le mal qu'elle représente, et ceci sans aucune interprétation ésotérique, sans aucune herméneutique. Le mal ne trompe personne, et la duperie, finalement, serait ici impardonnable. Et en effet, au regard... C'est ici que nous devons montrer le contraire, n'est-ce pas, en regard de cette dépense d'imagination, n'est-ce pas, dans ce polymorphisme, au regard, eh bien, nous voyons l'homme que rien ne trouble, dont la méditation n'est pas troublée par ce déploiement. Et il est assis devant, nous disions-nous, devant un crucifix et un livre de prière, et les saints bourdonnant des mouches, des moustiques et des guêpes ne le dérangent pas, ne l'importunent pas. Il ne voit rien, il n'entend rien. Et non seulement tout cela ne le dérange pas, mais elle ne fait même pas rire. Et nous allons voir que c'est important. Il reste sérieux. On peut avoir envie de rire aussi, avoir des quadrupèdes obscènes coiffés d'un entonnoir, d'une casserole ou d'un pot de fleurs. Eh bien, le saint garde son sérieux. Et il garde son sérieux. Et en effet, ceci est important parce que l'hilarité est une des formes de la dispersion et de la frivolité. L'hilarité est en elle-même, la dissipation. Quand les enfants se dissipent, ils se mettent à rire, n'est-ce pas? Et il y a donc un lien entre l'état d'hilarité de l'homme, le rire, et l'espèce de diaspora, de dissipation superficielle et frivole, comme l'implique un peu déjà ce qu'on appelle le bon mot, n'est-ce pas? Le bon mot, c'est-à-dire le discours réduit à une poussière de fléchettes dans lequel le sens disparaît, comme un homme qui est incapable d'avoir une conversation raconte des anecdotes, fait des calembours, il ne pense à rien. Sa pensée se pulvérise et s'émiette dans ce qu'on appelle justement des mots, des fléchettes acérées, que celles que Balthazar Gracian appelait agudez, le bon mot, la chose acérée, et qui exprime l'état comique de la dispersion. Par conséquent, celui qui ne rit pas quand tout le monde rit, celui qui reste sérieux, résiste à sa manière à une tentation très caractéristique. Et en ce sens, on pourrait dire que celui qui, en effet, résiste à ce comique, résiste à cet état à cette diablerie grotesque qu'on pourrait comparer à un scherzo. En effet, la tentation de Saint-Antoine, de Hieronymus Bosch, est comme un scherzo diabolique, un scherzo burlesque en peinture, un scherzo moucheté par des staccato et par des pizzicato, c'est-à-dire avec des détails saugrenus, des choses sans lien l'une avec l'autre, des monstres dans lesquels l'unité est volontairement brisée, fracassée, mise en mille morceaux. Il n'y a que des membras disjecta, des membres séparés. Eh bien, l'état de scherzo a toujours été pour l'homme un état d'ivresse et d'orgie, n'est-ce pas? L'orgie de la bourla, comme dans les beuveries de certains peintres hollandais, puisque nous parlons d'un peintre hollandais, dans lequel, cette fois, l'homme serait entraîné. Ainsi, Saint-Antoine ne rit pas. C'est important, et j'y reviens encore une fois, surtout pour le plaisir de citer une belle phrase de Gustave Flaubert, dans la tragédie de Saint-Antoine, « ris donc, belle ermite, dit la reine de Saba au moine, ris donc, je suis très gai, tu verras, je pince de la lyre, je danse comme une abeille, et je sais une foule d'histoires à raconter, comme le commis voyageur de tout à l'heure, et toutes plus divertissantes les unes que les autres. Elle sait des histoires, une saltation, si vous voulez, quelque chose de disséminé et de ponctuel. Voilà ce que dit à l'ermite, non point une personne répugnante, non point un monstre à cinq pattes, non point un crapaud fétide, mais la reine de Saba, c'est-à-dire une personne extrêmement attirante, extrêmement séduisante, une roussalka, n'est-ce pas, comme disent les Russes, une ondine, une femme, une séductrice, une véritable séductrice. Donc, la conscience non tentée, qui résiste à la tentation, est celle qui ne cédera pas à l'ébriété, à la soûlerie dionysiaque, qui ne cédera pas à la contagion de la griserie. Et plus généralement encore, en laissant de côté la résistance à l'hilarité, et en revenant alors à l'essentiel, c'est-à-dire à la résistance au pluriel, l'homme tenté qui résiste, c'est celui qui, criblé par des sollicitations, qui, assiégé de chuchotements, assiégé de lubricités et de blasphèmes, reste quand même concentré et recueilli, qui oppose à la dissémination, à ces chuchotements, de toutes parts, il oppose son recueillement. Et en effet, tandis que danse autour du moine le ballet infernal, le tourbillon des nabots et des diablotins qui enroulent et qui déroulent ses rondes, pendant que la nuit se remplit de maléfices, les maléfices d'une véritable nuit de Valpurgis, pendant ce temps-là, eh bien, le sage reste impassible et imperturbable. Le sage, qui du reste n'est pas un sage, nous verrons pourquoi tout à l'heure, mais un saint reste inébranlable et sourd à toutes les propositions qui lui sont faites. Voilà donc l'opposition, vous le voyez, entre le pluriel de la tentation démultipliée, le scherzo burlesque et infernal dont nous parlions, d'une part, et d'autre part, la concentration de l'âme dans son fin fond, dans ses profondeurs, dans les profondeurs du fort intime et qui reste inaccessible à ses appels. Apathie, ataraxie, ce sont d'ailleurs des mots stoïciens, mais qui n'ont pas le même sens pour le stoïcien et pour l'homme tenté des temps modernes dont nous parlons maintenant. Ils n'ont pas le même sens, car vous comprenez que chez le stoïcien, L'ataraxie, c'est l'impassibilité du sage en but au malheur. C'est celui qui est éprouvé par l'adversité, et qui résiste à l'adversité. C'est dans l'adversité, dans le taureau de Phalaris, que s'exprime l'impassibilité du sage, la résistance d'Épictète à la douleur. Voilà ce qu'est l'ataraxie stoïcienne. Tandis que l'ataraxie de saint Antoine, du moine de la Thébaïde, c'est justement le contraire. C'est l'homme qui reste impassible, non point dans l'épreuve du malheur, mais dans l'épreuve raffinée que représente, au contraire, le supplice spécialement raffiné que représente l'appel de la volupté. C'est là le tourment plus complexe qu'on peut appeler un tourment avec exposant, qui n'est pas une simple torture, une torture ordinaire. Donc, dans le premier cas, c'est en somme la vertu du sage, et dans le deuxième, celle du saint. C'est le sage qui n'est point ébranlé par la douleur et qui se cuirasse par son analgésie, n'est-ce pas, qui est protégé par l'analgésie contre la douleur. Mais si cela est un symptôme de sagesse, c'est au contraire un symptôme de sainteté que de n'être point persuadé par la volupté. Et c'est là l'héroïsme avec exposant de l'homme qui résiste non point au malheur mais au plaisir.